VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Dion à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 2 novembre 2023. Au Mali, 8 casques bleus de la MINUSMA ont été gravement blessés lorsque leur convoi, en cours de retrait, a touché un engin explosif improvisé. L'Afrique du Sud accueille le sommet de l'AGOA, l'opportunité d'accès au marché américain pour les produits commerciaux africains.
L'alternative possible, c'est peut-être de demander aux Nigériens de se tourner vers nos produits que nous fabriquons nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est aussi une alternative.
Un reportage à suivre dans la partie magazine au Niger, pays déchu de son statut de bénéficiaire de l'AGOA. En Ouganda, le chef d'un groupe de rebelles ADF accusé d'avoir assassiné 2 touristes et leur guide a été capturé. Au Proche-Orient, des centaines de binationaux et d'étrangers quittent encore Gaza pour l'Égypte aujourd'hui, au lendemain de premières évacuations. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Mali, 8 casques bleus de la MINUSMA en cours de retrait ont été gravement blessés hier lorsque leur convoi a touché un engin explosif, a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Les soldats ont quitté le camp de Kidal mardi dans un long convoi en direction de Gao. Nathalie Barge.
Les 8 soldats gravement blessés de la MINUSMA ont été évacués vers Gao. Ce convoi est le dernier à quitter Kidal pour rejoindre la base de la MINUSMA à Gao. Dans des conditions sécuritaires extrêmement difficiles, a souligné le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il a été forcé de partir sans soutien aérien en raison de l'absence d'autorisation de vol des autorités maliennes, ce qui augmente les risques pour les casques bleus qui doivent parcourir des centaines de kilomètres en territoire dangereux, a précisé Stéphane Dujarric, réclamant une nouvelle fois la pleine coopération de Bamako pour le retrait de la MINUSMA. L'attaque fait suite à des incidents similaires survenus mardi, lors desquels 2 casques bleus ont été légèrement blessés et soignés sur place. Les militaires au pouvoir au Mali ont exigé en juin le départ sans délai des casques bleus, forçant le Conseil de sécurité de l'ONU à engager un retrait précipité sans précédent qui doit être terminé d'ici la fin de l'année. La MINUSMA contre par la dégradation sécuritaire entre tous les acteurs armés sur le terrain, a dû accélérer son retrait. Lorsque les soldats de l'ONU ont quitté Kidal, la rébellion séparatiste a devancé l'armée malienne et ainsi pris le contrôle du camp après le départ de la MINUSMA.
Le Burkina Faso a décidé de rapatrier 14 stagiaires militaires en formation en Côte d'Ivoire. Selon une note de l'état-major des armées burkinabé, ces élèves devront poursuivre leur scolarité au prytanée militaire de Cambonzin, près de Ouagadougou, écrit le colonel-major Célestin Simpouré, chef d'état-major des armées burkinabè. Ce rapatriement marque un nouvel épisode de tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le 19 septembre, 2 gendarmes ivoiriens ont été interpellés en territoire burkinabè alors qu'ils se trouvaient sur un site d'opaillage clandestin. Depuis, des discussions sont en cours entre Abidjan et Ouagadougou pour leur libération. Membre du gouvernement américain et ministre du commerce et de l'industrie d'une quarantaine de pays africains éligibles à la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA, sont réunis jusqu'à samedi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ce sommet annuel doit plancher sur la prolongation de l'accord sur l'AGOA qui expire en 2025. Le choix de l'Afrique du Sud comme pays hôte est un signe de notre engagement dans nos relations bilatérales, a souligné George Bassou, sous-secrétaire d'État adjoint des États-Unis au Bureau des Affaires africaines. Des parlementaires américains ont appelé à ce que Pretoria, qui a refusé de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine, ne bénéficie plus d'avantages commerciaux. L'Afrique du Sud est tout à fait éligible à conserver ses avantages au titre de l'AGOA, a affirmé Mme Bassou. Ces échanges représentent 21% des exportations de l'Afrique du Sud vers les États-Unis et sont passés de 2 à 3 milliards de dollars entre 2021 et 2022. Les exportations vont des pièces automobiles aux matières premières en passant par les pierres précieuses. Approuvée par le Congrès américain en 2000, l'AGOA permet à des pays d'Afrique subsaharienne de ne pas payer de droits de douane pour exporter leur production sur le sol américain. Ce traitement commercial préférentiel est soumis à des conditions de pluralisme politique, de respect des droits humains et d'état de droit. La Maison-Blanche a annoncé cette semaine le retrait de la République centrafricaine, du Gabon, du Niger et de l'Ouganda.
L'armée ougandaise a annoncé que le chef d'un groupe de rebelles ADF, accusé d'avoir assassiné deux touristes et leur guide, a été capturé. L'armée précise qu'il est le seul survivant d'une opération qui a permis d'éliminer les six autres membres du commando. Les précisions de Dili Diko.
L'attaque qui a tué le 17 octobre un Britannique et une Sud-Africaine en voyage de noces, ainsi que leur guide, dans le parc Queen Elizabeth, a été revendiquée par le groupe État islamique, auquel la rébellion des forces démocratiques alliées, ADF, a fait allégeance. Mercredi, l'armée ougandaise a annoncé avoir tué un nombre important de terroristes ADF, impliqués dans l'attaque lors d'une opération nocturne menée sur le lac Édouard qui borde à l'est le parc Queen Elizabeth et à l'ouest la République démocratique du Congo où sont implantés les ADF. Toute l'équipe envoyée par les ADF pour semer le chaos, tuer des touristes, incendier des écoles et des hôpitaux a été éliminée et le seul survivant est le commandant que nous avons capturé, a affirmé jeudi le porte-parole adjoint de l'armée, le colonel Deo Akiki. L'homme identifié sous le nom de Njovu portait sur lui la carte d'identité du guide décédé et certains biens des touristes étrangers assassinés, a précisé le colonel.
L'armée congolaise annonce avoir arrêté trois collaborateurs des rebelles ADF pendant qu'ils s'approvisionnaient en produits pharmaceutiques et vivent dans le village de Kasanji-Lissassa, dans le nord Kivu. Le porte-parole de l'armée à Beni, le capitaine Anthony Mwalasayi, précise que l'arrestation s'est passée lors d'une patrouille des forces de sécurité et selon lui, les trois hommes ont témoigné répondre aux ordres du numéro 2 des ADF chargés des opérations et des renseignements connus sous le sobriquet de Amigo. En Éthiopie, Human Rights Watch et l'Union européenne déplorent la poursuite des combats et des exactions après un accord ayant ramené la paix dans l'état du Tigré. L'Organisation des droits de l'homme indique que les troupes de l'Érythrée encore présentes dans des zones frontalières continuent de commettre meurtres, violences sexuelles, enlèvements et pillages et d'entraver l'aide humanitaire et les victimes attendent toujours que justice leur soit rendue. Les États-Unis se disent préoccupés par les informations faisant état d'une attaque imminente à El Fasher dans le nord du Darfour au Soudan et appellent les parties belligérantes au Soudan à cesser immédiatement toute attaque, a déclaré ce jeudi le secrétaire d'État Anthony Blinken.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des centaines de binationaux et d'étrangers doivent quitter Gaza pour l'Égypte aujourd'hui, au lendemain de premières évacuations, alors que la guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 27e jour, donne lieu à des combats de plus en plus meurtriers. Les derniers développements avec Jacques Aristide.
L'armée israélienne indique que les affrontements ont désormais lieu jusque dans les ruines de Gazaville. Aucun répit non plus quant à ces bombardements. Pour le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, les frappes contre le camp de réfugiés de Jabalia pourraient constituer des crimes de guerre. Après de premiers convois venant de la bande de Gaza hier, l'Égypte affirme se préparer à accueillir aujourd'hui jusqu'à 7000 étrangers de plus de 60 nationalités. Ces évacuations ont fait l'objet d'un accord tripartite Israël, Hamas, Égypte, avec l'implication des États-Unis et du Qatar. Tout en se félicitant de l'opération, le président américain Joe Biden a appelé pour la première fois à une pause humanitaire à Gaza. Les craintes d'embrasement régional sont toujours aussi vives alors que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit retourner en Israël demain puis se rendre en Jordanie, pays qui vient de rappeler son ambassadeur à Tel Aviv. En Irak, une conférence sur la stabilité régionale à laquelle devait participer le président français Emmanuel Macron fin novembre a été reportée sine die.
L'aide à Israël et à l'Ukraine en débat au Congrès américain, conscient du risque de lassitude d'une partie de la classe politique américaine, le président démocrate Joe Biden a décidé de coupler sa demande d'aide pour l'Ukraine, plus de 61 milliards de dollars, avec celle pour Israël, environ 14 milliards. Vladimir Poutine a signé aujourd'hui une loi révoquant la ratification par la Russie du traité d'interdiction des essais nucléaires, une mesure destinée, selon le président russe, à aligner Moscou sur les États-Unis. Et puis le le Premier ministre britannique Rishi Sunak a accueilli aujourd'hui dirigeant politique et patron de la tech à Bletchley Park, près de Londres, au deuxième jour du premier sommet mondial sur les risques de l'intelligence artificielle. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Eric Manirakiza.
Le Premier ministre du Niger a assisté mercredi à la mise en service d'un oléoduc géant devant la cheminée du brut des gisements de pétrole du sud-est jusqu'au Bénin. Grâce à cet oléoduc, long de près de 2000 km, le Niger pourra écouler pour la première fois son brut sur le marché international via le port de Sem au Bénin voisin. Officiellement, les réserves du Niger tournent autour de 2 milliards de barils et selon les projections officielles, il produira 200 000 barils par jour en 2026. Membre du gouvernement américain et ministre du Commerce et de l'Industrie de la quarantaine de pays africains éligibles à la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA, sont réunis jusqu'à samedi à Johannesburg. Le sommet annuel doit notamment plancher sur la prolongation de l'accord qui expire en 2025. Le choix de l'Afrique du Sud comme pays hôte est un signe de notre engagement dans nos relations bilatérales, a souligné la sous-secrétaire d'État adjointe des États-Unis au Bureau des Affaires africaines. La Maison-Blanche a annoncé cette semaine le retrait de la République centrafricaine, du Gabon, du Niger et de l'Ouganda. Le Congrès américain doit encore valider cette décision. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a mis en avant jeudi l'importance de liens économiques étroits entre les États-Unis et les pays d'Asie Pacifique, une semaine avant une rencontre attendue à San Francisco entre Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Le championnat national de football de première division démarre ce jeudi au Mali.
Oui, après deux reports, c'est le bon cette fois-ci. Les explications avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Les matchs se jouent sur des terrains des clubs de Bamako et au stade Amarindaou de Ségou. C'est le manque de stades de football qui a mis en retard le démarrage du championnat. Les deux principaux stades de Bamako sont en rénovation. Or, c'est sur ces stades que le championnat se joue généralement. Il s'agit du stade Modibo Keïta et du stade Mamadou Konaté. Quant au stade du 26 mars, il ne peut être utilisé régulièrement pour les matchs du championnat. Il est réservé pour les compétitions internationales. C'est donc un ouf de soulagement pour les acteurs du football au Mali de voir le championnat commencé. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Les Springboks, champions du monde de rugby, ont entamé une tournée de 4 jours à travers leur pays.
Première étape, Pretoria, une médaille d'or autour du cou. Les joueurs sont arrivés au siège du gouvernement dans la capitale à bord d'un bus à toit ouvert, salué par le président Cyril Ramaphosa comme des joueurs entrés dans la légende.
Never in the history of world rugby.
Jamais une équipe dans l'histoire du rugby mondial, dans toute l'histoire du rugby mondial, n'avait gagné 4 Coupes du Monde jusqu'à maintenant.
The cup 4 times. Until now.
Ce faisant, vous avez élevé l'esprit de toute la nation et vous nous avez emplis de fierté.
And you filled us with pride.
Le président Cyril Ramaphosa a décrété le 15 décembre prochain, jour férié, pour marquer le triomphe des Springboks obtenu le week-end dernier à Saint-Denis, près de Paris, face à la Nouvelle-Zélande en finale 12-11. Après Pretoria, les joueurs se sont rendus ensuite à Johannesburg et Soweto. Ils rejoindront le Cap demain, Durban samedi et East London dimanche.
Ici en NBA, LeBron James offre aux Lakers le derby de Los Angeles.
À 38 ans, King James a compilé 35 points, 11 rebonds et 7 passes décisives, pesant sur les moments décisifs pour permettre aux Lakers de s'imposer 130 à 125 après prolongation dans le derby de Los Angeles face aux Clippers. De son côté, le champion NBA en titre Denver a connu sa première défaite de la saison à Minnesota 110-89 pour son cinquième match. Boston a écrasé Indiana 155 à 104. Alors que Golden State était mené d'un point à quelques secondes de la fin du match face à Sacramento, Klay Thompson a réussi un tir en tête de raquette à 0,2 seconde de la fin pour une victoire des Warriors 102 à 101.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. À moins d'un mois et trois semaines des élections, 26 candidats à la présidence de la République démocratique du Congo, de grands noms comme Moïse Katumbi, Dr Denis Mukwege, Martin Fayoulou, Délice Essanga, Marie-Josée Ifoku et Franck Diongo reprochent à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et au gouvernement le flou autour du processus en cours et exigent des concertations. De leur côté, la CENI et le gouvernement accusent ces 6 candidats de créer des tensions en vue de justifier une contestation future des résultats. Eddy Sango a joint à Kinshasa le coordonnateur de la CIMOCEL, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Luc Loutala.
Les 6 candidats relèvent un certain nombre de points qu'ils demandent à la CENI de mettre sur la table. Et il faudrait rappeler que avant même la déclaration des 6 candidats, la semaine dernière, la CIMOCEL a plus ou moins relevé qu'il y a des points cruciaux qui restent non éclaircis et qui nécessitent que la CENI prenne la responsabilité de convoquer, si vous voulez, un cadre de concertation de haut niveau. Le haut niveau, ça veut dire c'est vraiment la CENI avec les responsables de haut niveau des différentes parties prenantes. Et donc, en ce moment, on a l'impression que le président dans la CENI est plutôt à la défensive parce que le mieux aurait été de dire qu'est-ce que la CENI fait pour effectivement répondre aux points qui sont soulevés par les 6 candidats.
Mais la CENI répond en disant qu'elle a publié sur son site internet les noms de candidats et aussi la cartographie électorale.
La CENI a fait l'effort d'avancer vers les élections dans un contexte qui est très difficile. Il faut savoir que le calendrier électoral actuel, c'est le calendrier le plus serré que l'on ait eu et que dans ce contexte, la CENI fait l'effort de relever un certain nombre de défis. Mais le fait de cette contrainte de temps n'enlève pas au processus électoral démocratique les principaux éléments d'évaluation qui sont, entre autres, la légalité, la transparence, l'inclusion. Et il faut remarquer que la référence, c'est la loi. Pour les parties prenantes comme pour la CENI, c'est vraiment l'application de la loi. Évidemment, si la CENI pense avoir appliqué la loi et que les autres pensent que la CENI ne l'a pas appliqué, il faudrait absolument en ce moment-là organiser ce qu'on appelle les cadres de concertation. La CENI a plutôt gaspillé son temps en organisant des cadres d'information des masses.
À moins de 2 mois des élections, les listes d'électeurs ne sont pas affichées, la cartographie de l'élection n'est pas toujours connue.
Il y a des efforts que la CENI devrait faire pour rassurer les parties prenantes. Le fichier électoral pose déjà énormément de problèmes et crée énormément de méfiance en termes non seulement des ratés qui ont été observés par rapport au processus d'identification et d'enrôlement. Mais en même temps, il faut remarquer que le problème de l'audit est resté vivant parce qu'il y en a qui réclamaient l'audit extérieur, la CENI qui s'est plus ou moins cabrée avec son audit comme il a été. Et donc, il y a une véritable méfiance qui règne entre la CENI et différentes parties prenantes. Et pour avoir des élections démocratiques, il est important de créer un climat de confiance. Et nous ne voyons pas du côté de la CIMOCEL qu'est-ce que la CENI perdrait à rassurer les parties prenantes en affichant cette liste pour que non seulement les parties prenantes, mais les électeurs eux-mêmes soient suffisamment informés de qui doit voter où.
La CENI accuse ces 6 candidats de préparer plutôt la contestation et au regard du temps qui reste, peut-on penser vraiment qu'on va aux élections apaisées?
La plupart des missions d'observation électorale, y compris la CIMOCEL, ont toujours sonné la sonnette d'alarme sur le processus tel qu'il était conduit avec des insuffisances de participation des responsables des parties prenantes, avec une faible inclusion, avec une faible consultation.
Luc Loutala, coordonnateur de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections en RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 87.2 FM.
La mort nous guettait, vivre sous siège au Burkina Faso, c'est un nouveau rapport d'Amnesty International qui documente les attaques des groupes armés et leurs conséquences sur la situation humanitaire. Le document fait aussi état de nombreuses exactions et crimes commis par les forces armées nationales contre les civils. Pour aborder les perspectives d'amélioration de la situation, Eric Manirakiza, adjoint à Dakar au Sénégal, Ousmane Ali Diallo, chercheur d'Amnesty International sur le Sahel.
On parle de près de 2 millions de personnes qui sont affectées par cette politique de siège qui entrave leur accès à la sécurité alimentaire à cause des interdictions de cultiver et d'accéder au pâturage, mais aussi à l'inflation que l'on note dans la plupart de ces villes sous siège, donc qui renforce le sentiment de désespoir. Donc au-delà de ça aussi, il y a des cas d'homicides illégaux faits par les groupes armés et des menaces d'attaque contre les convois de ravitaillement qui ravitaillent ces villes. Et de manière générale, nos recommandations sont adressées aux autorités gouvernementales du Burkina Faso, aux groupes armés à qui nous demandons d'arrêter cette politique de siège qui a eu un impact disproportionné sur la vie des populations civiles, mais aussi de respecter le droit international humanitaire en évitant les homicides illégaux et de sanctionner tous leurs membres qui sont responsables de ces atteintes au droit international humanitaire. Et nous formulons un certain nombre de recommandations au gouvernement de mieux former et encadrer les VDP et les soldats, surtout en matière de droit international humanitaire, pour prévenir des incidents qui peuvent constituer des attaques indiscriminées contre les populations civile, comme on a pu le noter dans la ville de Holdé.
Le gouvernement burkinabé est-il d'accord avec votre rapport par rapport à vos recommandations, à vos conclusions?
Oui, nous ne savons toujours pas les positions du gouvernement burkinabé par rapport à ce rapport. Nous avons voulu les rencontrer au mois de juin 2023 lorsqu'une délégation d'Amnesty International était présente au Burkina Faso. Donc des lettres de demande d'audience ont été adressées au ministère de la Défense et des anciens combattants, au ministère de la Justice, garde des Sceaux, au ministère de l'Action sociale qui s'occupe de toutes les questions humanitaires, ainsi qu'au ministère de l'Administration territoriale, entre autres. Mais on n'a pas eu de réponse des autorités, à part une du ministère du Genre et de l'Action sociale et de la Famille, qui nous disait ne pas pouvoir nous recevoir durant la présence de la mission au Burkina Faso au mois de juin 2023. Nous avons aussi envoyé les conclusions préliminaires du rapport avec un droit de réponse au Premier ministre du Burkina Faso, donc une lettre envoyée depuis le 27 septembre 2023, qui a été reçue par le cabinet du Premier ministre et qui nous est revenue de manière informelle pour nous dire qu'il fallait l'adresser plutôt à différents départements ministériels comme la santé, comme l'éducation ou bien au ministère de l'Action humanitaire. En fait, à tous les autres ministères que nous voulions rencontrer au mois de mai et de juin 2023. Ce que nous avons fait le 12 octobre, donc des correspondances ont été envoyées à 7 ministères du Burkina Faso, mais à la date de la publication du rapport ce matin, on n'avait toujours pas eu de réponse.
Ousmane Ali Diallo, chercheur d'Amnesty International sur le Sahel.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La presse ivoirienne et internationale a vécu une période sombre au cours des crises politiques des années 2000. Plusieurs journalistes ont été éprouvés dans l'exercice de leurs fonctions, pendant que d'autres ont perdu la vie à l'occasion de cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Commémorée ce 2 novembre, les professionnels des médias ivoiriens ont décidé de rendre hommage à ceux d'entre eux qui ont péri pendant ces crises. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenio.
Marche solennelle en la mémoire de Jean Hélène. Ce journaliste français de Radio France Internationale a été assassiné le 21 octobre 2003 par un policier à Abidjan. 20 ans après sa disparition, les souvenirs de cette journée restent encore frais dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Kofi Christophe, ancien journaliste à l'AFP, témoigne.
Concrètement, à 13h-14h, étant à l'AFP, il me fait un cadeau parce qu'il rentrait de vacances, un sac RFI, un noir estampillé avec un logo rouge. Et il me fait ce cadeau et figurez-vous, à 14h et à 19h, c'est moi, grâce à une information, qui suis devant son corps inerte à la sûreté pour annoncer au monde entier son décès. Franchement, ça m'a 20 ans après, sa disparition me hante.
La disparition du journaliste français a choqué beaucoup de monde. L'auteur du crime, un ex-policier du nom de Robert Siri, a écopé d'une peine de 17 ans de prison. Pour les journalistes ivoiriens, cette mésaventure ne doit plus se reproduire. Christophe Koffi.
Ce jour-là, le 21 octobre, Jean-Hélène prenait aucun risque. Pour lui, il partait tendre le micro. Et puis, où est-ce qu'il partait? Jean partait à la sécurité nationale. Le Saint des Saints, où on parle sur la sécurité de quelqu'un. Et ironie du sort, c'est là-bas, il avait rendez-vous avec la mort et il a été tué.
Cette année, la Côte d'Ivoire a reculé en matière de liberté de la presse d'après un rapport fourni par Reporters sans frontières. Le pays occupe la 54e place sur 180 pays, alors que l'année dernière, il occupait la 37e place. Pour le ministre ivoirien de la communication Amadou Koulibaly, chacun doit jouer sa partition pour sauvegarder la liberté de la presse.
Nous devons veiller sur la liberté de la presse et le droit à l'information. Chacune et chacun d'entre nous doit être le gardien de ces valeurs fondatrices de la démocratie. La liberté de la presse et la responsabilité sont les deux faces d'une même médaille.
Selon Reporters sans frontières, le paysage médiatique ivoirien est parmi les plus politisés et polarisés d'Afrique de l'Ouest. Les journalistes sont parfois convoqués pour être interrogés par les procureurs et certains font l'objet d'agressions physiques ou verbales. Il n'est pas rare que les journaux soient suspendus. Ange Bijou Nomeyon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le président américain Joe Biden a annoncé le 30 octobre son intention de mettre fin à la participation de plusieurs pays africains au programme commercial de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA. C'est, dit-il, en raison de violations flagrantes des droits de l'homme et leur incapacité à établir ou réaliser des progrès constants dans la sauvegarde du pluralisme politique et de l'état de droit. Parmi ces pays figure le Niger. Notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa, est allé à la rencontre des acteurs bénéficiaires de cet accord commercial préférentiel. Voici son reportage.
Au village artisanal de Ouadata de Niamey, la nouvelle a refroidi beaucoup d'artisans. Ali Kilili est le président de leur coopérative.
Je dirais que ce n'est pas vraiment une très bonne chose pour nous, qui sommes les acteurs bénéficiaires directs de ce programme, mais quand même, et comme on parle de la sauvegarde de notre patrie, ça fait partie vraiment des sacrifices que nous sommes en train de faire pour que le Niger puisse vraiment et recouvrer son indépendance et son intégrité. Je dirais que ce n'est pas grave. En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas grave. Ce n'est pas aussi grave que ça.
Ici, on réfléchit déjà à des alternatives.
L'alternative possible, c'est peut-être de demander aux Nigériens de se tourner vers nos produits que nous fabriquons nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est aussi une alternative. Donc, organiser des foires et des expositions sur le plan national. Donc, demander aux Nigériens, leurs amis, à comprendre l'enjeu et se tourner vers nos nouveaux partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Parce que si les États-Unis aujourd'hui disent « je ne veux plus vous accorder des facilités », il y a certains pays qui sont là, qui sont prêts à nous accompagner. Donc je pense qu'on va essayer de faire avec ces pays-là.
Réagissant aux éventuels impacts que ce retrait pourrait avoir sur les échanges commerciaux entre le Niger et les États-Unis d'Amérique, le président du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger, El Hadj Yacouba Damaradi, relativise.
Parmi les commerçants, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est la GOA. Ils ne savent même pas ce que c'est. Tout le temps que ça a pris. Donc, et même les artisans, donc ceux qui en savent, c'est ceux qui ont profité pour faire immigrer des gens ou ceux qui ont profité pour vendre les quelques éléments donc individuels qu'ils ont. Et puis ça s'est limité à cela. C'est pour cela que aujourd'hui l'impact n'est pas très ressenti en réalité. Donc à l'échelle, en tout cas nationale, à l'échelle de quelques individus, oui, mais à l'échelle nationale et sur l'échelle de notre économie, donc l'impact n'est pas reparti.
Au Niger, les produits d'exportation de la filière Curepo, du secteur de l'habillement ou encore du secteur minier sont ceux qui bénéficient le plus des avantages de cette loi adoptée en l'an 2000 par le gouvernement américain pour soutenir l'économie des nations africaines en simplifiant leur accès au marché américain. Dès son adoption, le Niger figurait sur la liste des nations bénéficiaires. Il y a été suspendu en 2010 après un coup d'État et réintégré une année plus tard. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.